Je vais reprendre une certaine partie de choses qui ont été déjà indiquées ce matin. Et vous allez voir beaucoup de résonance, je pense. Je ne vais pas vous présenter tout le système anti-SCOFO. Je vais principalement parler en fait, du traitement du temps et de comment il faut concevoir le temps dans anti-SCOFO. Alors, le temps, comme disait Saint-Augustin, tout le monde en parle. Le temps que je parle là, c'est un temps qui est le temps qui intéresse les musiciens et les compositeurs, et pas du tout le temps physique. Donc, j'utilise peut-être le même mot, mais il faut voir que derrière, ça cache des réalités vraiment très différentes. Et on peut voir anti-SCOFO comme une espèce d'expérimentation, d'étude de comment objectiver, comment rendre concret, à travers des programmes informatiques et des algorithmes, ces idées de temps musical. Alors, ça se passe, tout le système anti-SCOFO là se place définitivement dans un contexte de musique mixte où l'objectif est d'avoir un ordinateur qui joue avec un être humain. Pour jouer avec un être humain, il faut évidemment, et ce qui m'intéressait beaucoup ici, c'est jouer ensemble. Donc il y a une partie écoute dont je ne vous parlerai pas. À travers l'écoute du flux sonore, du flux musical, il faut reconnaître les événements musicaux symboliques, ceux qui font sens dans ce qui a été écrit, dans la partition, pour pouvoir réagir et jouer la partie électronique. Et donc, si on en revient un petit peu à la présentation de Archia Comte, hein, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle et la musique mixte et le problème de réaliser des pièces de musique mixte, finalement, est un problème d'intelligence artificielle et a apporté des réponses depuis longtemps. Est-ce qu'on peut développer des algorithmes, des programmes qui permettent à un ordinateur de jouer avec des musiciens? Et quand je dis jouer des musiciens, ce n'est pas de produire des sons. Hein, on a vu beaucoup de choses sur la production de sons ce matin ou même cet après-midi. Ce qui va m'intéresser ici, c'est comment jouer ensemble, de la musique ensemble avec les musiciens. Et donc les deux questions que je vais essayer d'aborder à travers cette idée de temps et de temps musical et de comment en rendre compte en informatique, c'est comment jouer ensemble et comment rendre compte de la performativité musicale. Alors performativité, ça veut dire pour moi quelque chose comme ça. Vous avez là une partition qui va être jouée de manière MIDI, c'est-à-dire que je n'utilise... Alors vous reconnaissez peut-être un morceau célèbre de Liszt, Un soupir, hein, et il n'est joué qu'en MIDI, c'est-à-dire je ne joue, enfin c'est pas moi qui joue, mais c'est l'ordinateur ne le joue qu'avec les informations qui sont disponibles dans la partition. Et on voit que ce n'est pas très bon, surtout si on le compare à ce qu'est capable de faire un interprète humain. Bon, alors évidemment, vous faites un peu avoir par le son du piano qui est meilleur, mais... Au-delà du son du piano qui est meilleur, il faut voir qu'il y a beaucoup d'informations qui sont apportées par ce jeu-là qui ne sont pas présentes dans la partition, qui sont toutes les nuances, tout ce qu'apporte justement l'interprétation, cet espace de liberté qu'offre le compositeur à l'interprète pour réaliser les idées musicales. Et ce qui va m'intéresser ici principalement, en fait, c'est la liberté temporelle qui est accordée par le compositeur à l'interprète pour réaliser sa pièce. Alors, j'ai posé une question. Est-ce qu'un ordinateur peut jouer avec des musiciens humains? Alors, oui. Alors, normalement, je devais faire cet exposé avec Julia Blondeau et José Echevest. Julia est retenue par les répétitions de son concert qui aura lieu vendredi soir. Voilà un extrait d'une pièce, pas celle de vendredi soir, mais d'une autre, où vous voyez, en fait, le tableau de bord, un peu ce qu'a pu vous montrer Thomas à l'exposé précédent. Donc, vous avez anti-SCOFO qui tourne. Et donc là, vous avez en fait un altiste et de l'électronique. Il y a assez peu de notes d'alto, vous les voyez en fait défiler en haut au fur et à mesure qu'elles sont reconnues. Et vous voyez en bas, ici. Toutes les quantités de données que anti-SCOFO doit envoyer très régulièrement au processus de synthèse pour réussir à assurer la synthèse des sons qui viennent se fusionner et compléter les sons de l'altiste. Donc oui, on arrive à jouer ensemble, et je vais essayer de vous expliquer en fait comment il faut comprendre le temps pour pouvoir jouer ensemble comme ça. Alors, le temps n'est pas la seule chose, il faut par exemple pouvoir tolérer tout ce qui est erreur, non-reconnaissance et fausses notes. Donc vous voyez que là, le système est capable de suivre, hein, et en fait, il est capable de suivre principalement à cause des relations temporelles, parce que les relations de hauteur sont vraiment faussées. Mais ces relations temporelles, vous voyez qu'elles sont quand même très élastiques, puisqu'on ralentit, on accélère. C'est fait exprès par la chanteuse, en fait, c'est extrait d'un dispositif qui a été fait pour des pièces de théâtre, où le personnage, l'acteur, est censé chanter dans sa salle de bain. Voilà. Donc, il faut savoir faire ça, et donc c'est un peu ce que disait aussi Archacompte. On doit s'adapter, le système doit être robuste, il faut s'adapter aux erreurs et s'adapter aux variations de l'interprétation, et comme j'ai déjà dit, c'est les variations temporelles qui vont m'intéresser ici. Je vais essayer, je ne suis pas musicien, mais je vais quand même me permettre d'avoir l'arrogance de vous parler un peu des notions temporelles dans une partition, et ensuite je parlerai de deux relations importantes, la simultanéité et la succession, et de voir, est-ce qu'on peut considérer qu'une partition est un programme exécutable par une machine. Voilà. Alors, quelques notions temporelles dans une partition. La première, qui est une notion extrêmement importante pour les compositeurs et les interprètes, c'est la distinction qui est faite entre le hors-temps et le temps réel. Le hors-temps, c'est le temps qu'on écrit dans une partition, et c'est un temps qui est très géométrique ou spatialisé. Par exemple, vous avez là un exemple de partition de Mozart qui a un palindrome, donc vous pouvez la lire de haut en bas ou de bas en haut, et de gauche à droite et de droite à gauche. Ce qui montre bien en fait que dans cette partition-là, le temps qui est représenté, le temps qui est écrit, n'est pas du temps qui s'écoule. Alors, pendant le travail du compositeur, le temps que manipule le compositeur, c'est du temps noté, et puis il peut se déplacer dedans à sa guise, et il peut le représenter de manière très géométrique. Ça ne correspond pas au temps du concert, le temps qui file, le temps qui passe. C'est une distinction aussi qu'ont fait les philosophes. Par exemple, John MacTaggart parlait des séries de type A et puis des séries de type B. Et les séries de type B, c'est ce temps un peu comme les points d'une droite. Et tous les points de la droite ont le même statut. Et donc, ça veut dire que les instants du futur et les instants du passé ou du présent ont exactement le même statut et la même valeur. Et c'est très bien visualisé, je trouve, par ce petit exemple-là. En fait, on va retourner le temps, simplement on a mis la partition sous la forme d'un ruban de Möbius, donc on réalise à la fois le fait qu'il va être circulaire, mais à la fois le fait aussi qu'on a une renversion, une rétrogradation des notes qu'on joue. Donc on voit bien là le caractère géométrique du temps dans la partition. Évidemment, ce temps, ce hors-temps, donc c'est un mot français, on parle plutôt de temps différé en anglais, s'oppose absolument au temps réel de la performance, où quand une note est faite, elle est faite, on ne peut pas revenir dessus. Et là, par exemple, on a une vidéo de la mise en œuvre d'une partition de Sivrage. Cette partition est un processus. Voilà, quand on a lâché, évidemment, les micros, eh bien, on ne peut plus revenir en arrière. C'est le temps qui passe qui... et ce que Philippe Manoury appelle le vif de la performance. Voilà. Donc il est important de distinguer ces deux temps-là, et en fait, dans Antescoffo, on doit manipuler ces deux temps-là, puisque Antescoffo est à la fois une notation pour noter des partitions, et à la fois quelque chose qui s'exécute lors du concert. Alors, dans la partition, eh bien... on voit dans une partition un objet symbolique et donc souvent on y pense comme notant des choses qui sont discrètes et symboliques, hein. Mais en fait les choses notées peuvent être aussi continues. Alors on a évidemment des événements instantanés comme l'attaque d'une note, mais les notes ont une durée et donc on a des choses continues qui apparaissent, et au-delà de la durée des notes, on a des changements continus de paramètres, hein. Par exemple quand on parle de glissando, de vibrato ou d'accelerando, on a bien des changements continus. On a d'ailleurs développé pour des notations graphiques. Là, vous avez un petit extrait de la partition d'articulation de Ligeti qui est censé rendre compte de manière un peu analogique des différents paramètres qui varient dans la partition. Une partition, et on parlait un peu d'endroits centralisés, je ne sais plus qui disait que tout était bien aligné dans une partition, mais il faut voir que une partition, on va la réaliser, et quand on la réalise, en fait, on peut la réaliser à plusieurs. Et donc, l'organisation du temps musical, elle n'est pas nécessairement liée à un seul chef d'orchestre ou à un seul instrumentiste, mais elle peut se faire à plusieurs. Là, en fait, c'est un petit morceau d'une partition de Stockhausen, Gruppen, dans lequel, en fait, Stockhausen a relié différentes notes sur différentes voies pour indiquer que la continuité musicale, en fait, était assurée par les événements qui étaient fournis par différents musiciens et non pas par la ligne mélodique d'un seul musicien. Voilà. Donc comment faire pour écrire cette simultanéité qui correspondra à l'harmonie, à la polyphonie, ou bien la succession qui correspondrait plutôt à la mélodie dans un langage de programmation? Alors, simultanéité et succession, en fait, c'est les deux relations que les philosophes ont utilisées pour analyser le temps, la troisième étant la permanence, le fait de durer pendant, et ces trois relations organisant les instants et les durées. Alors, traditionnellement, en fait, chaque notion s'oppose aux deux autres. Par exemple, ce qui est permanent, c'est ce qui n'est pas instantané et qui n'est ni avant ni après une chose. Et donc, ça prend place pendant cette chose, et donc, c'est la permanence. En fait, cette analyse, de deux entités temporelles, les instants et les durées, qui est organisée par trois relations de succession, nous permettent aussi d'analyser les langages de programmation. Alors, les langages séquentiels, qui sont les plus répandus, je pense, en fait, ne parlent que de succession. Et il a fallu attendre, on dit je fais une chose, puis après je fais l'autre, et après je fais encore telle autre. De manière conditionnelle ou pas, alors évidemment, la relation de succession peut être gardée par plein de conditions, peut être complexe à exprimer, mais on n'exprime que des successions de calculs. En fait, il faut attendre l'apparition des langages synchrones et qui ont été développés ici par Gérard Berry et exposés dans ces séminaires pour parler à la fois de succession et de simultanéité. Et donc ça permet d'expliquer que deux choses peuvent se passer en même temps. On parle beaucoup de langages parallèles, par exemple pour faire des grandes simulations. Et il faut savoir que, en fait, la plupart des langages parallèles n'expriment pas du parallélisme vrai. Ils disent que des choses ne se passent pas de manière, peuvent ne pas se passer simultanément. C'est-à-dire qu'une chose A peut se faire avant B ou B peut se faire avant A. Ça n'implique pas que A et B se fassent de manière simultanée. Un des problèmes qu'avait à régler Antescoffo, c'est en fait de parler de durée aussi. Et en fait, il y a peu de langages qui parlent de durée. Il y a beaucoup de formalismes qui permettent de raisonner sur les langages, puisque la durée, c'est important, c'est ce qu'on appelle les systèmes temporisés. Mais c'est mal rendu par des entités de premier ordre, par des structures de contrôle natives dans les langages. Et c'est une des avancées d'Antescoffo de pouvoir parler de la durée directement. Alors souvent, on se dit, mais est-ce que j'ai vraiment besoin de durée? Pourquoi est-ce que je ne parlerai pas qu'à d'instant? Par exemple, un intervalle de temps, ça a bien un instant de début, un instant de fin. Et quand on fait ça, on oublie le côté continu du temps. Je peux aller deux fois plus vite, finir en même temps, accélérer, etc. Et ça demande vraiment de parler des instants et des durées sur le même pied. Et on peut se rendre compte de cette chose-là avec un problème auquel fait face les logiques temporelles, par exemple, enfin certaines logiques temporelles. Certains prédicats sont définis en des instants, mais ont besoin n'existent que sur un intervalle. Par exemple, pour une lampe, être allumée, si vous la définissez, si elle est allumée en un instant donné, au moment où vous fermez l'interrupteur, est-ce qu'elle est allumée ou éteinte? Alors, ça n'a pas tellement de sens parce que c'est comme la vitesse d'une voiture. La vitesse instantanée, c'est défini en un point, mais pour la calculer, il faut que votre voiture elle ait roulé un petit peu, même sur un tout petit intervalle. Et on a ce même genre de problème entre durée et instant. Voilà. Et puis, quand on parle du temps, on pense souvent au temps physique, donc aux horloges, et donc une manière assez particulière, en fait, de donner une date, de localiser les événements dans le temps. Mais on peut parler de temps sans faire référence à une date, de manière purement relationnelle ou événementielle. Et donc, ça serait une approche dans laquelle on voit plutôt les événements comme créant le temps, plutôt que de supposer le temps comme préexistant avec les événements qui prennent place dedans. Donc c'est un peu la querelle entre Newton et Leibniz. Newton pensait par exemple que l'espace préexistait, était une scène vide dans laquelle les objets venaient se localiser. Et Leibniz disait, avait l'idée que l'espace, les relations spatiales étaient plutôt quelque chose de relationnel. Donc je suis à droite de quelque chose, mais si cette chose n'est pas là, je ne peux pas être à sa droite. Et bien c'est la même chose pour le temps. On peut voir le temps de manière relationnelle, de se dire je fais des choses en même temps ou après, et non pas nécessairement avec une date connue dans un temps préexistant qui serait une référence globale et partagée par tout le monde. Alors un exemple connu, c'est la division du jour par les heures. Et par exemple chez les Romains, mais ça a persisté aussi au Moyen-Âge, les heures étaient définies comme la douzième partie du jour allumé. Alors, on ne dit pas jour allumé, du moment de la journée où il y a du soleil. Et ce qui fait évidemment que les heures étaient plus courtes en hiver qu'en été, ce qui amenait les soldats romains, quand on leur disait « on va au prochain camp, il y a 3 heures de marche », à demander si c'était 3 heures de marche d'été ou 3 heures de marche d'hiver, parce que ça ne correspondait évidemment pas au même effort. Alors, si je dois exprimer une loi physique avec des durées comme ça qui sont très dépendante du contexte, ça va être compliqué. Ça ne va pas être la même loi pour décrire la chute d'une pierre en été ou en hiver. Par contre, c'est particulièrement adapté pour régler nos activités humaines. Finir en même temps, c'est typiquement du temps relationnel. C'est à travers des événements que je me coordonne et non pas à travers des dates. Voilà. Donc on voit un peu toute la complexité des relations temporelles que je dois gérer. Ces relations temporelles, elles sont exprimées dans une partition. Est-ce que je peux voir la partition comme un programme et donc l'exécution de ce programme comme l'interprétation de la performance de cette partition? Et donc ça, c'est créer un parallèle entre partition et programme. Et ce parallèle est tentant à faire parce qu'on retrouve un petit peu les mêmes étapes ou les mêmes phases entre une partition et un programme. On a une phase de composition qui correspondrait à une phase de spécification du programme. On a un compositeur qui correspondrait à un programmeur. On a l'écriture de la partition qui réfère à sa dénotation, la production musicale, de la même façon qu'une expression va référer à son évaluation et à la valeur évaluée. Alors, c'est vrai, on peut faire ce parallèle, et c'est ce qu'on va faire dans la suite d'Antescofo, mais j'allume les warnings. Il ne faut pas pousser ce parallèle trop loin. Une partition n'est pas un programme, en particulier parce que la volonté du compositeur n'est pas de tout mettre dans la partition, mais de justement laisser cet espace de liberté pour l'interprétation. Guerino Mazzola parle d'un geste gelé, et la partition comme un geste gelé qu'il faut dégeler par l'interprétation, et Adorno parlait de l'état solide de la partition et de l'état liquide de la performance. Ce qui m'intéresse ici, c'est l'écart entre ce qui est donné dans la partition et la performance, mais l'écart temporel. Et donc, de ce point de vue-là, on peut se dire que finalement, l'exécution d'une partition, du point de vue des relations temporelles qu'elle contient, correspond un peu à une déformation de cette partition-là. On va la froisser, ce n'est pas un froissement qui est fait au hasard, c'est un froissement intentionnel, parce qu'il va être porteur de sens musical, par exemple. Et donc, pour faire face à ce problème-là, Antescofo, en fait, va utiliser ce qu'on appelle une partition augmentée. Donc, la partition augmentée contient les événements musicaux qui vont être produits par le musicien humain. C'est ces événements musicaux qu'on va reconnaître dans le flux musical. Ces événements musicaux sont décorés ou reliés à des actions électroniques. Et simplement, en fait, il y a encore une petite augmentation qui est que dans un programme Antescofo, on ne décrit pas simplement les actions électroniques à faire, mais on décrit leur temporalité relativement à la temporalité des événements musicaux. C'est ce que j'appelle les synchronisations. Donc la synchronisation des actions électroniques, elles prennent en compte les informations qui viennent du musicien lors de la performance. Donc ces informations, c'est des informations de telle note a été produite, tel événement musical a été produit, et puis une information de tempo qui correspond à une espèce de vitesse de production des événements. Et ces informations-là vont compléter la planification qui est faite dans Antescofo pour exécuter les actions électroniques au bon moment. Et le résultat est une performance mixte dans laquelle on a à la fois une partie électronique et une partie humaine. Alors, si je regarde ce qui se passe dans cette espèce de jeu là, de mise en œuvre d'une partition avec une partie électronique, c'est un jeu à trois. Il y a un compositeur qui a écrit la partie électronique et la partie à destination de l'instrumentiste humain. Cet instrumentiste humain va réaliser la partie qui lui est destinée, mais avec une temporalité propre à l'interprétation. Et en fait, on va demander donc à l'ordinateur d'adapter les actions électroniques à la nouvelle temporalité qui a été donnée. Alors, si on regarde une pièce, on a déjà vu en fait un petit extrait de cette partition-là. Là, c'est la partition d'Anthème 2 de Boulez. En fait, la temporalité des actions électroniques est décrite beaucoup par des déclenchements. Donc là, ce qui va nous intéresser, c'est principalement d'aligner des débuts ou des évaluations de calcul avec des événements musicaux. Par contre, vous avez, alors on ne voit pas très bien, je suis désolé, sur le fragment de partition de droite de Julia Bandeau. En fait, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup plus de notation un peu continue, il y a beaucoup de zigouilles graphiques, si j'ose dire. C'est parce qu'en fait, il y a beaucoup de paramètres là qui sont vus de manière continue. Et ce qui va nous intéresser aussi, c'est non seulement du déclenchement correspondant à des événements instantanés, mais la prise en compte du tempo, des vitesses relatives. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on écrit dans la partition augmentée ? Alors, une partition, on peut voir ça comme un agenda. Je vais utiliser le mot anglais de timeline, parce que c'est plus facile. Et, par exemple, si je fais une boucle de période 2, je peux comme ça compresser un agenda qui dit tous les deux jours, je dois faire, en une instruction qui me dit tous les deux jours, fais A. D'accord ? Et donc, finalement, on peut voir un programme comme la description d'une espèce de partition, mais sous forme intentionnelle. Donc, la distinction intentionnelle-extensionnelle, là, vient des mathématiques. Quand vous définissez un ensemble par extension, vous donnez tous ces éléments. Donc, une partition la plus simple, la plus classique, ça correspond à donner la suite des notes à produire par le musicien, et c'est la forme la plus usuelle dans une partition. Mais cette partition-là peut être décrite aussi par un processus de calcul qui vous dit quoi faire à certains moments-là. Et c'est ce à quoi va ressembler une partition électronique. C'est une partition intentionnelle qui, quand on la calcule, nous dit comment remplir ma timeline, mon agenda. Alors, on doit exprimer un certain nombre de relations temporelles. Par exemple, des relations de succession. On a vu qu'elles étaient importantes. En fait, en Antescoffo, vous avez quatre formes de relations de succession. Il y a la juxtaposition qui consiste à dire que A se fait en même temps que B. Vous pouvez commencer B, mais après un délai, après le début de A. Donc, c'est la forme A5B que vous voyez là. Et puis, vous pouvez dire aussi, oui, mais en fait, je veux faire B une fois que A est fini. Mais A peut être, c'est ce qu'on a essayé de représenter ici, une action complexe qui correspond à des sous-actions. Et donc, la question qui se pose, c'est, est-ce que vous voulez démarrer B une fois que l'action de surface A est terminée, ou bien A et puis toutes les sous-actions qui ont été lancées par A. Donc en fait, on a deux formes comme ça. Et puis vous pouvez regarder ça comme une espèce de règle de pavage. Ça vous dit comment vous assemblez des pavés d'actions pour remplir votre timeline. Et du coup, alors une des originalités d'Antescoffo, en fait, c'est que par défaut, tout est en parallèle. Alors ça peut sembler étrange, mais je vais donner un exemple. En Chuck, qui est un langage qui est beaucoup utilisé pour faire du live coding, c'est-à-dire pour générer des sons en temps réel pendant une improvisation. Et donc en Chuck, vous pouvez dire, je fais quelque chose, j'attends 5,8 millisecondes et après je fais autre chose. En Antescoffo, on va dire à peu près la même chose, même si la syntaxe est différente. Alors, donc ça ressemble, les deux programmes se ressemblent énormément, mais en fait il y a une distinction très forte, très grande, c'est que si vous prenez ces petits morceaux de programme et que vous les mettez dans une boucle, alors dans Chuck, vous allez créer la boucle là, tant que. Voilà. Je fais quelque chose et puis j'attends 5,8 millisecondes et je fais autre chose. Et donc, supposez que votre quelque chose prend du temps. D'accord ? Et en fait, là, si ça prend du temps, vous faites 2 millisecondes, mais après, vous attendez tout le temps pour faire do something, etc. Par contre, dans Antescoffo, si vous dites je dois faire quelque chose tous les 5,8 millisecondes, comme les choses se font en parallèle, eh bien, en fait, les corps de la boucle ici peuvent se tuiler, il n'y a aucun souci. Donc en fait, Antescoffo prend le contre-pied de la plupart des langages informatiques. Dans la plupart des langages informatiques, les actions se font en succession. Antescoffo, par défaut, les actions se font en parallèle. Et il faut explicitement dire, si vous voulez, une succession. Alors, on ne le fait pas par plaisir de prendre le contre-pied des autres, c'est simplement parce que, en fait, la polyphonie, le fait de faire des choses en parallèle est quelque chose de naturel en musique, hein, c'est tout l'aspect vertical. Alors, exécuter quelque chose, c'est finalement progresser sur la timeline que vous êtes en train de construire. Et donc, progresser sur timeline, vous avez une vitesse de progression. Et la vitesse de si vous avez une vitesse de progression variable, ça correspond à déformer les relations temporelles qui sont inscrites dans cette timeline pour obtenir la performance que vous réalisez. Alors, en fait, en Antescoffo, vous pouvez indiquer, par exemple, votre vitesse de progression avec une notion de tempo. Mais cette notion de tempo est une notion de tempo riche. Il peut y avoir plusieurs couches de tempo. Par exemple, ici, j'ai fait un petit processus trace. Et quand je lance trace dans le contexte ambiant, eh bien, je vais exécuter une boucle qui va, tous les 0,1, faire s'incrémenter de 1. Et donc voilà en fait la trace de cette boucle-là. Quand je suis dans le temps ambiant, c'est le temps, j'ai envie de dire, plat. Je vais à 60 pulsations par minute. Et donc, je vais tracer une droite. Mais en fait, rien m'empêche de reprendre exactement le même processus qui est là. Donc, il est défini indépendamment de tout contexte temporel. Et puis, je peux le plonger ici dans un contexte temporel que j'ai introduit ici par un groupe. Et je dis simplement que le tempo de ce groupe-là est piloté par une courbe. Et puis, c'est une courbe de tempo. Et puis, ça fait une espèce d'accent circonflexe, là. Donc, au début, j'accélère et puis après, je ralentis. Et donc, je vais avoir une déformation de ma trace. Et ma déformation de ma trace, c'est puisque ici, je vais avoir une accélération linéaire et une décélération linéaire. Ça va être deux petits bouts de parabole que j'obtiens. Et puis, évidemment, on peut le faire de manière arbitraire. Hein, donc là... Pardon. Tac, tac, tac. Voilà. Là, j'ai plongé ma trace dans un groupe qui lui-même était défini dans le groupe qui était dans le tempo T1. D'accord ? Donc, en fait, j'ai deux imbrications de tempo là qui me modulent l'activité que je suis en train de faire. Alors, les courbes de tempo, ça existe dans d'autres langages. Ce qu'on ne peut pas faire dans d'autres langages facilement, c'est les empiler, c'est avoir des contextes temporels dépendants. Et puis, dans ces langages, souvent, par exemple, on a cité Live, en fait, les courbes de tempo vont être des vraies courbes qu'on écrit de manière graphique. Et alors, c'est très bien parce que c'est très expressif, mais c'est pas bien parce que c'est pas très intentionnel. On a du mal à réutiliser ces instructions. Par exemple, supposons que je veuille, que j'ai un groupe d'actions que je dois faire en séquence, mais que je veux appliquer dessus un rubato. Donc un rubato, c'est vous accélérez un petit peu, puis vous ralentissez, mais à la fin des actions, vous êtes dans les temps. D'accord ? Donc je peux très bien dire que ma courbe de tempo... Pardon, la courbe réalisant un rubato, c'est une courbe qui fait comme ça, qui part d'une valeur de base du tempo, qui monte jusqu'à une valeur maximale, descend jusqu'à une valeur minimale, et puis il revient. D'accord ? Alors ça, je pourrais le dessiner dans Live, par exemple, mais dans Antescofo, je peux faire une fonction qui définit mon rubato en fonction de mes trois valeurs base, max et min, avec les intervalles correspondants, et je peux l'appliquer comme tempo à n'importe quel groupe. Et ça... C'est ce qui est permis par l'abstraction de l'écrit et qu'on n'arrive pas avec l'extensionnalité du graphique. Alors, la performance, là vous avez vu que je réglais la vitesse de progression sur une timeline par rapport à une courbe de tempo. Ici, ce qu'on peut faire, c'est pas ça qui est le plus important en Antescofo, c'est pas le plus original. Ce qui est le plus original, c'est que je peux régler la vitesse d'une timeline par rapport à la progression sur une autre timeline. Et ça va nous permettre de répondre à la question jouer ensemble. Parce que, en fait, ma timeline de référence, ça peut très bien être le musicien externe. Et donc, en fait, je vais dire comment je fais mes actions électroniques en fonction de la progression du musicien externe. Voilà. Une autre chose importante, qu'on se rend compte en fait dans les programmes qu'on écrit en Antescofo, c'est que souvent le musicien est amené en fait à enregistrer des informations temporelles à un moment donné et la réutiliser pour les rejouer sur un autre système. Par exemple, vous avez vu l'exemple de José Miguel ce matin, dans lequel les données temporelles qu'on enregistrait en entrée, c'était les mouvements, c'était des vrais mouvements là du percussionniste, et ces données temporelles-là vont être appliquées en fait à des relations temporelles ou à d'autres changements de paramètres sur les processus de synthèse. Alors vous voyez que là, en fait, je parle de tempo, je vais essayer de vous montrer que les tempos, on peut en hériter, que ces tempos, ces progressions sur la timeline, elles peuvent être, venir de l'environnement de l'extérieur. Et donc, notre problème à nous, c'est non pas qu'on a un seul temps, mais c'est qu'on en a plusieurs et qu'il faut les coordonner. Et pour coordonner ces temps-là, en fait, on utilise un outil qu'on appelle des diagrammes temps-temps, un peu comme les physiciens parlent de diagrammes temps-espace pour représenter des mouvements. Alors, le diagramme temps-temps, il veut dire juste comment je progresse sur une timeline en fonction d'une autre timeline. Alors ici, j'ai une timeline qui est la timeline classique, c'est en fait le temps en secondes. Et puis ici, j'ai par exemple la timeline qui correspond à comment le temps progresse dans une partition. Donc je suis là, ici, au niveau du compositeur, dans le hors-temps de la partition, tout se passe très bien. Alors je vais représenter chaque événement musical, donc un silence ou bien un accord, par un petit vecteur. Le positionnement du vecteur me dit à quel instant ça se passe dans le temps et à quel événement ça correspond dans la partition. Hein, chaque événement ici est repéré par sa position en pulsation dans la partition. Et puis le tempo me donne le temps, et puis si j'ai par exemple ici une partition, ben, tant que L'indication de tempo reste constante, je suis sur une droite, et puis je change, et en fait, tout est correctement bien aligné. Évidemment, quand je mets ça en œuvre, enfin quand un instrumentiste met ça en œuvre, là, eh bien, il va changer un petit peu ce qui se passe, et mon diagramme tentant devient plus compliqué. Donc j'ai toujours la représentation de mes événements musicaux, et supposons ici que j'ai un événement musical qui se passe, c'est la première note que j'ai. Normalement, je devrais démarrer avec un certain tempo, par exemple 60, mais il se trouve que le musicien va jouer à 55. Et donc, la date du prochain événement attendu sera à cette position-là, alors qu'elle est prévue à cette position-là dans la partition. Mais même si le musicien joue à un tempo de 65, il peut décider de jouer un peu en avance une note ou un peu en retard. Et donc, on se rend compte qu'en fait, j'ai des discontinuités ici qui correspondent simplement aux déformations entre les indications de la partition et leur réalisation par le musicien. Et ces deux diagrammes tentants, donc celui du musicien et puis celui idéal de la partition, en fait, doivent me permettre de calculer le diagramme tentant de l'ordinateur qui me donne finalement la temporalité, la datation de chacune des actions électroniques que j'ai à faire. Et j'ai deux informations qui arrivent pour réaliser ce schéma à partir de ces deux schémas-là. J'ai deux informations qui peuvent être contradictoires. Une information de tempo et une information de position. Et contrairement à la physique, où quand vous intégrez des vitesses, vous avez des positions et ça coïncide, ici, comme on a un homme dans la boucle et puis qu'il peut prendre des décisions arbitraires en fonction de la manière dont il va jouer la musique, eh bien, ces deux informations peuvent être contradictoires. Et c'est la manière dont on construit une courbe de datation ici en fonction de ces deux informations-là. Il n'y a pas une seule réponse possible, il y en a plusieurs. C'est ce qu'on appelle des stratégies de synchronisation. Et les stratégies de synchronisation dépendent beaucoup du contexte musical. Certaines sont bonnes dans un contexte, d'autres dans un autre contexte. Alors, une stratégie de synchronisation classique... C'est par exemple ce qu'on appelle la stratégie tight, c'est de faire confiance à la position d'abord. Donc si on détecte un événement musical, on dit vous êtes à cette position-là. Donc même si le tempo me dit non, tu es un peu avant ou un peu après, au moment où j'ai une nouvelle information de position, j'oublie ce que je savais avec mon tempo et puis je saute à la bonne position, j'effectue ma correction. Donc ça, c'est une stratégie qui vous permet de vous aligner, par exemple, de manière très forte sur les événements musicaux. Évidemment, entre deux événements musicaux, je n'ai pas d'information, et donc à ce moment-là, j'utilise l'information de tempo pour pouvoir dater les actions qui se passeraient entre deux événements musicaux. À l'inverse, on peut avoir une stratégie très souple qui est de dire je ne veux pas regarder les informations de position, je veux uniquement regarder les informations de tempo. Et à ce moment-là, vous allez garder toujours l'allure générale, mais vous serez moins aligné en position. Et puis, entre ces deux positions-là, vous avez plein de stratégies intermédiaires. Et on a une stratégie qui ressemble beaucoup à la poursuite missile contre missile. À chaque instant, un lanti-missile azimute le missile. Il calcule une erreur et il dit qu'il veut rattraper l'erreur en un temps donné. Voilà. Donc finalement, d'une certaine manière, dans Antescoffo, gérer le temps, gérer la performance, ça correspond en fait à synchroniser, à aligner des lignes de temps, sachant qu'il y a des lignes de temps privilégiées, celles correspondant au musicien qui est réalisée à l'extérieur d'Antescoffo, et puis les lignes de temps à l'intérieur. Cet alignement des lignes de temps, on appelle ça un scope temporel. Ça correspond à un système de datation, et un scope temporel a besoin de deux informations, des événements qui sont partagés, des événements qu'une ligne de temps est capable de voir dans l'autre ligne de temps, et puis une estimation de passage du temps. Alors, l'estimation du passage du temps, le tempo, c'est fait par un mécanisme qui s'appelle la sympathie des horloges, et qui est illustré ici avec des métronomes. Les métronomes, vous voyez, là, ils sont déphasés. Et puis, on va les mettre sur des canettes, hein, juste parce que ça permet de mieux transmettre l'énergie mécanique entre les métronomes. Quand on a cette énergie mécanique qui est transmise, on a un terme de couplage. Et ce terme de couplage permet, en fait, aux métronomes, petit à petit, de s'aligner. Il y en a encore un qui résiste. Et puis voilà, ils sont bien synchronisés. Donc ce phénomène avait été repéré par Huygens. Et en fait, on va utiliser ce phénomène-là dans Antescoffo. On va supposer en fait que le musicien a une espèce d'horloge intérieure qui mesure l'écoulement de sa durée subjective pour lui et qui règle en fait sa réalisation des événements musicaux à jouer. Et donc, on a une observation extérieure de cette horloge, on a une observation extérieure qui correspond à la production des événements musicaux. Donc, on suppose que ces événements musicaux doivent arriver à une certaine date. Si l'occurrence de l'événement arrive un peu après, eh bien, on sait qu'on doit ralentir l'horloge dans un Tescofo qui mime l'horloge qu'on veut synchroniser avec l'horloge chez le musicien. Et si elle arrive un peu avant, j'accélère. Voilà. Et donc, finalement, ça nous permet d'inférer le tempo du musicien. Cette information de tempo est donnée avec une information du repérage des événements dans le flux musical. Et ce sont des informations qui sont utilisées par la machine réactive et temporisée pour faire progresser les timelines qui sont gérées de manière interne en Tescofo et réaliser les actions électroniques. Alors ça, c'est peut-être une remarque plus pour les gens qui ont fait du PostScript ou des logiciels de dessin vectoriels sur ordinateur. En fait, on sait que, par exemple, en PostScript, on dessine, mais on dessine dans un repère et une des forces du langage est de pouvoir appliquer des transformations à ces repères-là. Par exemple, on ne sait pas dessiner une ellipse en PostScript, on ne sait dessiner qu'un cercle. Et pour dessiner une ellipse, il suffit en fait de déformer l'axe des X et l'axe des Y. Et ce qu'on va faire. Donc, d'une certaine manière, en fait, Antescofo fait ça à tous les niveaux. D'abord au niveau de la composition, puisque le compositeur peut décrire des temporalités complexes et des couches de temps, et puis aussi à la performance pour s'adapter aux musiciens. La différence avec les transformations géométriques qu'on applique sur des dessins vectoriels, c'est que le temps, ça s'organise dans le temps, et quand il est passé, c'est fini, je ne peux pas revenir en arrière. Le temps, je dois gérer à la fois des choses événementielles, des ponctuelles, atomiques, et puis des durées. Et les calculs sont causaux. J'ai pas de boule de cristal, donc je ne peux faire mes transformations qu'en fonction de mes informations du passé. J'ai pas d'informations qui viennent du futur, à part celles qui sont écrites dans la partition. Une partie des transformations provient de l'environnement. Je me synchronise avec le musicien. Et comme je l'ai déjà expliqué, en fait, certaines relations, par exemple la correspondance entre un tempo et position, ne doivent pas être vues dans un sens physique strict. Le tempo n'est pas une vitesse, parce que quand j'ai un musicien dans la boucle, j'intègre son tempo, je n'obtiens pas sa position. Alors, un exemple de ce que ça permet de faire, c'est de travailler de manière très fine le phrasé de séquences d'électronique. Donc là, par exemple, dans cet exemple, Julia Blondeau voulait en fait avoir d'abord sur la séquence musicale là, qui a réalisé, le long de cette flèche, il fallait accélérer d'abord et puis un peu ralentir. Mais si j'écris les vraies valeurs de notes en prenant compte de... Pardon, les vraies durées des notes, en prenant compte l'accélération et le ralentissement, ces durées-là, je n'aurais pas pu les écrire dans une partition classique et ça aurait été extrêmement pénible. D'accord ? Donc, en fait, on va utiliser ce qu'on fait avec du papier millimétré. Par exemple, dans un papier millimétré avec une échelle logarithmique, vous savez que c'est facile de dessiner une exponentielle, c'est une droite, parce qu'on a déformé le repère de façon à ce que le processus à dessiner dans le repère soit plus simple. C'est ce qu'on fait ici aussi. Ici, on a mis que des valeurs de notes, enfin que des durées qui sont équivalentes. Simplement, cette action-là, en fait, elle va être conditionnée par ce tempo-là, qui lui va déformer, donc créer un peu ce papier millimétré-là pour avoir la bonne temporalité des actions. Je vais passer sur causalité et succession. Je vais vous donner quelques exemples de ce qu'on peut faire dans Tescofo. Donc un exemple de Christopher Trapani qu'on a déjà cité ce matin. Christopher voulait faire des canons rythmiques à la non-carreau. Donc l'idée du canon, c'est vous faites re-rentrer une voix un peu plus tard, un playback. Mais ce qu'a proposé non-carreau, d'où le terme rythmique, c'est de déformer la temporalité de la voix que vous rentrez, par exemple de l'accélérer. Alors, faire ça en temps réel avec des musiciens, c'est trop difficile, c'est pas humain, si j'ose dire. Donc, Nancaro faisait ça avec un piano mécanique, et donc, par exemple, refaire rentrer une voix sur le piano mécanique, c'est reprendre la même bande de papier perforé, simplement faire les perforations de manière proportionnelle, plus tassée, et de faire rentrer à la bonne position. D'accord ? Donc là, ce que voulait faire Christopher Trapani, ici, je vais juste éteindre le temps d'expliquer, c'est je débute l'enregistrement en même temps qu'en train de jouer, donc ça va être Jérôme Comte qui est le clarinettiste de l'ensemble intercontemporain, il va commencer à jouer, Antescofo va enregistrer ce qui est joué, et à un moment donné, l'indication dans la partition est la suivante, Il faut démarrer l'enregistrement de telle manière que l'enregistrement va deux fois plus vite pour que l'enregistrement et le musicien soient au même point de la partition à cet endroit-là. D'accord ? Donc si vous imaginez ça en termes de tête de lecture, vous avez le musicien qui avance dans la partition, au bout d'un, l'enregistrement avance aussi, il doit démarrer à une certaine date, de telle manière qu'en allant deux fois plus vite, il se retrouve au même endroit sur une position donnée. Donc, en fait, l'endroit où on démarre, la vitesse doit évidemment s'adapter aux variations de vitesse du jeu du musicien en temps réel. Et c'est ce qu'on va faire ici avec Jérôme. Vous savez, la rentrée de la voix. Voilà, donc ce travail n'est qu'une esquisse, mais il montre en fait tout le jeu que permet Antescoffo sur les temporalités et les différentes couches temporelles qu'on peut gérer. Alors voilà un autre exemple. Alors ça, c'est une forme ouverte. Alors on ne voit pas très bien, mais est projeté sur l'écran un certain nombre de boîtes. Chaque boîte correspond à une séquence musicale très simple. Et en fait, on voit des arcs ici. Les arcs relient en fait la suite, les boîtes que le musicien peut choisir en temps réel pour poursuivre. Donc ce que fait Antescoffo, c'est qu'il entend la première les premières notes de chaque boîte est distincte. Il entend la première note ou les premières notes de la boîte qui a été choisie par le musicien. Il connaît cette information-là. Du coup, il calcule le prochain graphe des futurs possibles, des futurs permis. Voilà, et là c'est juste un exemple parce que José n'est pas là, mais pour vous montrer un exemple dans lequel Antescoffo ici est utilisé par un groupe de musique électronique. L'idée là n'est pas de faire du suivi, mais d'utiliser Antescoffo comme une espèce de mémoire partagée entre les musiciens. Donc le vibraphoniste a un vibraphone MIDI, peut enregistrer des mélodies. On ne voit pas sur scène, mais il y a quelqu'un au synthétiseur qui est capable d'utiliser ces mélodies, de changer les timbres, de stocker des configurations qu'il veut réutiliser plus tard. Et puis il y a le bassiste qui peut changer les rythmes ou les imposer ou les recevoir sur le click track. Voilà. Je ne vais pas rentrer sur le suivi de gestes, puisque José Miguel en a parlé ce matin, et je voulais conclure avec un certain nombre de remarques. Les perspectives, alors Antescoffo est de loin la fin de l'histoire, il y a beaucoup de choses à améliorer encore. Il me semble qu'il y a trois grandes directions de recherche encore. L'expressivité. Alors, pour vous donner un exemple, dans les partitions de José Miguel ou de Julia, on est à peu près de l'ordre de 1000 lignes de code par minute. Donc ça veut dire qu'en fait, si vous voulez faire un opéra, c'est un objet en termes de code qui est quand même très gros. Et donc, on a des problèmes de comment s'abstraire et comment faire des choses plus concises. Voilà. La concision n'est pas simplement pour épargner du travail au compositeur, mais c'est aussi, si on a des choses plus concises, on a une notation qui rend un travail compositionnel possible. Sinon, je suis dans la réalisation d'un programme et ça ne va pas permettre d'exprimer ou de réfléchir à travers le langage sur des idées musicales. Alors, on a des solutions de type informatique, on a une notion de processus en Antescoffo, on a une notion d'acteur. Il y a d'autres notions informatiques qui peuvent être utilisées pour augmenter l'abstraction et l'expressivité des constructions à mettre en œuvre pour exprimer une partition. Néanmoins, une partition va garder, surtout en musique électronique, une complexité descriptive énorme. Alors la complexité descriptive, vous l'avez vu sur l'exemple de Julia avec toutes les courbes qui envoient des paramètres, vous l'avez vu avec tous les exemples de Thomas sur les interfaces. La notion de preset, par exemple, c'est quelque chose qui change la vie. Le son musical est un objet extrêmement complexe. Pour le produire, il faut énormément de données, des données qui bougent dans le temps. Comment faire, et donc la description d'un son ou d'une œuvre musicale demande beaucoup de données. Comment faire pour rendre ces données plus symboliques, pour pouvoir les manipuler plus aisément, les stocker, les retrouver avec, sans problème, même si le temps passe, même si les langages ou les implémentations changent. Puisque j'ai fait le parallèle, avec néanmoins beaucoup de bémols, entre un programme et une partition, un programme a une sémantique, c'est ce qu'on veut lui faire faire. Donc, quelle est la sémantique musicale d'une partition ? Donc, l'idée d'une sémantique musicale est quelque chose qui est extrêmement débattu. Je ne veux pas du tout rentrer dans ces débats-là, parce que je ne pense pas qu'en Tescofou peut y apporter grand-chose. Mais par contre, ce qu'on peut remarquer, c'est que ce qu'on essaye d'écrire, ce qu'on essaye de capturer souvent dans Tescofou, c'est quelque chose qui est de l'ordre du mouvement ou du geste. Alors, c'est un mouvement ou un geste dans un temps qui est un temps à la fois événementiel, donc discret, hein, mais aussi continu. Donc on a un modèle de temps un peu hybride, et puis on a cette idée de gestes, c'est-à-dire de choses qui changent dans un temps qui est un peu hybride. Voilà. Donc comment décrire simplement, efficacement, ce genre de choses, cette idée un peu abstraite de gestes et de mouvements, que ce soit un chemin dans un espace tonal, ou bien un changement de rythme pour se fondre vers d'autres rythmes. Derrière tout ça, enfin, ou devant tout ça, ce sont des problèmes de notation. Donc, la notation qui, pour la musique et la musique contemporaine, doit faire face à de nouvelles dimensions. Comment noter des interactions, des formes ouvertes, de nouveaux paramètres qu'il faut prendre en compte. On a de nouvelles interfaces. Faut-il les faire de manière graphique, de manière tactile, voilà. Il y a plein de... et la question qui est un peu en sous-texte dans Tescofou. Finalement, Tescofou, on le voit à la fois comme une partition qui peut servir pour le compositeur au moment de la composition, mais aussi comme un programme qui s'exécute. Et donc, je défendrai l'idée qu'une propriété importante pour les notations est d'être serait d'être exécutable. Voilà. Peut-être que... Oui, je vais finir là. On peut voir finalement le travail qu'on a fait sur Tescofou comme une espèce d'enquête un peu sur le temps musical et comment l'attraper de manière informatique. C'est Madame Langer, qui était philosophe américaine, dans Feeling and Form en 1952, disait que la musique rend le temps audible, hein, à la fois sa forme et sa continuité sur le plan sensible. Moi, j'ai envie de poursuivre en disant, mais si la musique est effectivement cet art du temps, mais de quel temps s'agit-il ? C'est certainement pas le temps de la physique. Donc, il y a une spécificité du temps musical. Quelles sont ses relations avec le temps psychologique ? Mais quelles sont ses propriétés ? Et est-ce que ces propriétés, je peux les attraper suffisamment, les rendre suffisamment effectives, objectives, hein, pour qu'elles soient, pour qu'elles rentrent dans un ordinateur, hein. Tescofou est un premier pas dans ce chemin-là. Merci.